Nous sommes trois professionnels de l'éducation dans le sud de l'Ontario.
Mylène Brassard,
Vicky Fauteux
et Jennifer Davies. Puisque nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe.
Quoi?
OK. En effet, nous avons...
Toute la classe.
Nous allons vous proposer des épisodes sur des thèmes ponctuels en éducation, tels que la planification,
l'évaluation,
l'intégration de la technologie,
la persévérance
et bien plus encore.
Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de la discussion sur notre page Facebook.
Bonjour tout le monde, bienvenue à notre tout nouvel épisode de Toute la classe. Alors, cette fois-ci, Mylène n'est pas avec nous parce qu'elle célèbre présentement le 30e anniversaire de mariage de ses parents au Québec. Alors, on les félicite. Félicitations! Alors, cette semaine, nous allons faire un petit virage de la littératie à la numératie. Alors, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, nous avons parlé du bloc équilibré en littératie et comment le structurer. Alors, donc, les éléments, comment est-ce qu'on peut s'assurer que tous les composants sont là-dedans. Et cette fois-ci, on a essayé de faire le pont entre la littératie et la numératie. Et ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va explorer une des façons de structurer le bloc de numératie. Alors, nous sommes très chanceuses d'avoir une invitée toute spéciale avec nous pour nous aider à découvrir ce qu'on appelle les maths en trois temps. Alors, je vais la laisser se présenter.
Bonjour tout le monde! Quel honneur, premièrement, d'être invitée à participer au podcast Toute la classe! Je m'appelle Nicole Stogaitis et je suis enseignante accompagnatrice au Conseil Viamonde.
Merci de prendre ton temps précieux de venir nous parler. Et moi, ça va être toute une découverte pour moi, là, parce que j'entends beaucoup parler de ça, mais vraiment, les détails... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que ça va être vraiment utile. T'sais, c'est vraiment... C'est une des affaires que tout le temps, c'est que... Ah, les maths en trois temps! Ah, c'est beau! Ah, c'est le fun! Mais tu sais... Puis je me souviens que souvent, encore une autre fois, comme j'ai dit il y a, dans un épisode il y a très longtemps, tu sais, des fois, on te donne une feuille avec un genre de stratégie, puis il parle de quelque chose, puis là, t'es dans une réunion, puis tu te dis,
tu hoches la tête.
Mais après ça, t'as comme absolument aucune idée. Mais je sais pas vraiment comme ça, là, pour moi, avec les maths en trois temps, mais je pense que j'ai beaucoup à apprendre, fait que j'ai vraiment hâte à cet épisode-là. Alors, pour commencer, la question de base, c'est quoi ça, les maths en trois temps?
OK, oui. Bonne question de départ. C'est quoi ces maths en trois temps? Alors, comme dit le nom, il y aura trois temps ou trois actes. Et si on peut comparer avec un problème qui est juste plus classique, ce serait de donner une feuille de papier à tes élèves avec un problème. Et puis, il y a un problème écrit sur ces feuilles-là. Puis ensuite, les élèves doivent résoudre le problème. Le problème aurait déjà toutes les données nécessaires aussi, probablement, pour la résolution de problème. Et puis, ça, c'est dans le classique. Une feuille de papier, c'est problème, ça. Et voilà. Maintenant, maths en trois temps, il y a les trois actes. Et ça ajoute beaucoup de motivation, d'engagement pour les élèves de le faire en trois temps.
Mm-hmm.
Donc, acte 1. OK, on est prêts? Acte 1.
OK.
Le problème, il est présenté, il doit être super engageant. C'est une vidéo d'habitude ou une image, ou ça pourrait être de la musique, ça peut être audio aussi. Et puis, on mettrait le moins de mots possible, le moins de nombres possible. C'est accessible, c'est quelque chose qui va intéresser les élèves.
OK.
Okay.
Et ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est bilingue, de façon automatique.
Oui, ouais,
on n'a pas besoin de traduire quelque chose si c'est visuel.
Non, c'est sûr, exactement.
Puis là je ne sais pas si je suis en train d'accélérer ou de ralentir. Y a-t-il une question? Il n'y a pas de question.
Donc, l'acte 1, il n'y a pas de question encore. Tu présentes une mise en situation qui intéresse les élèves. Donc, ça peut être une joute de basketball ou une piscine qui se remplit de Coca-Cola. Quelque chose comme ça. Donc là, il n'y a pas de maths encore apparente. Et puis, on demande aux élèves, qu'est-ce que tu remarques dans cette vidéo ou dans cette image? Qu'est-ce que tu te poses comme question? Puis là, après, on répond à ça. Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu te poses comme question? Puis souvent, des questions mathématiques vont ressortir de cette question-là. Alors, c'est les élèves qui se posent des questions mathématiques.
Et là, on permet à tous les élèves de participer parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse.
Tu acceptes toutes les réponses, c'est très ouvert. Ça pourrait même être des réponses comme « je remarque que c'est le printemps dans la photo ». Excellent! On prend toutes les informations, on est comme des détectives et puis on prend toutes les réponses, vraiment.
Ouais. Puis est-ce que nous autres, vu qu'on parle de la numératie, est-ce qu'on essaie... On n'essaie pas de les guider, mais est-ce qu'on... Comme par exemple, si tu dis, ah, oh, c'est vraiment... Ah, oh, je remarque que c'est le printemps. On ne va pas le dire, ah, oh, dis-moi quelque chose qui a rapport avec le contexte mathématique.
Même non, pas, on le pas laisse... Non, pas du tout. Tu acceptes toutes les réponses, donc c'est vraiment seuil bas, puis plafond élevé, là, comme on parfait. Dit, c'est accessible pour tous.
Ouais.
Et puis, en fait, peut-être que le printemps aura un impact sur la résolution du problème. On ne sait pas quelle est la question encore
c'est
qu'on
vrai,
se pose.
C'est vrai.
Alors, ça, c'est l'acte 1. Puis, on peut guider un peu en demandant quelles questions mathématiques est-ce qu'on se pose, si on veut, pour aller plus vers les maths. Et puis, souvent, les élèves vont poser la question que l'enseignant aurait déjà décidé de poser aux élèves. Donc, c'est ça. Donc, là, après l'acte 2?
Oui.
On est prêt? Donc, l'acte 2, on confirme quelle est la question qui est posée de mathématiques en lien avec la mise en situation. Puis, avant d'embarquer en résolution de problème, on va demander aux élèves d'estimer ou de prédire le résultat, la réponse. Donc,
okay.
Ça donne la chance de faire une estimation, d'utiliser la pensée critique.
Absolument.
Et puis, estimer ce qu'on fait, on fait le sandwich. Donc, on demande, estime une réponse qui est trop élevée, assurément trop élevée.
OK.
Assume ensuite une réponse qui est en dessous de la réponse, qui est vraiment inférieure, t'es certain. Puis après, on pose la question, là, tu penses que ce serait quoi environ la réponse?
Ouais. Que d'ailleurs, moi, je trouve ça tellement intéressant parce que l'estimation, c'est vraiment un des premiers concepts qu'on enseigne en numératie dès la maternelle. Alors, en fait on recycle ce concept parce que on fera des liens avec la vraie vie bientôt. Moi, je trouve que, comme par exemple, si tu t'en vas à l'épicerie, mais quand tu vas comme acheter deux bouteilles de jus, tu vas pas tout de suite dire... « Ah, ça va coûter X parce que tu n'as pas fait un calcul mental, mais tu vas estimer. Mm-hmm. » Parce que si une bouteille de jus est de, par exemple, 2,69, puis là, tu vas ajouter l'autre, mais ça ne va pas être un nombre précis, mais tu estimes combien ça va te coûter. Alors, en fait, on est vraiment à ce stade-là.
C'est pas facile pour les élèves, absolument. Ça travaille le sens du nombre. Comme tu dis, il n'y a pas de calcul. C'est un peu, tu estimes selon tes connaissances. Et puis, c'est le fun quand on demande une réponse qui est trop élevée, tu vas recevoir des nombres comme 1 million de n'importe quoi. Là, c'est très, très, très élevé. Alors, moi, je guide les élèves en leur demandant, OK, est-ce que tu peux risquer de baisser ce nombre-là, mais encore être assuré que ce soit trop élevé?
Oui.
Ah, OK, je suis capable de le baisser à 1 000. Ah, oh, ben ça, c'est un gros saut, d'un million à 1 000. Puis, même chose avec la réponse qui est trop petite. S'ils disent 1, est-ce que tu peux risquer monter ton nombre, puis encore être trop être inférieur? OK, ben je vais dire 12. Ah, OK, ben tu viens de faire un gros saut. Puis l'idée, c'est de te rapprocher de la bonne réponse. Puis...
J'aime beaucoup cette étape-là parce que je pense que c'est quelque chose qu'on aurait tendance à sauter d'habitude on n'est pas habitué à prendre le temps de le faire. Puis avec tout ce qu'on a à notre portée en ce moment, les élèves dans leur avenir, quand ils seront adultes, ne vont pas toujours faire des calculs à la main. Ils vont souvent utiliser des calculatrices ou leur téléphone intelligent. Et si on a aucune idée quelle devrait être la réponse environ. Si on n'a pas fait cette estimation-là, on peut se tromper d'un zéro avec la calculatrice puis ne pas se rendre compte qu'on n'a vraiment pas la bonne réponse.
Ouais.
Exactement. Il ne faut pas sauter cette étape-là. Ça a beaucoup de valeur dans la fin de l'acte 1 au début de l'acte 2. On estime, puis comme tu dis, après, on peut comparer notre réponse calculée avec cette réponse qu'on avait estimée.
C'est comme si tu arrives à la caisse, Vicky, puis la madame te demande 20 $ pour tes deux bouteilles de jus. Bien, là, tu vas savoir que ça se peut pas.
Non, c'est ça. Exactement. Ça, c'est vraiment la définition de base de qu'est-ce que ça veut dire, le sens du nombre. Mm-hmm. C'est quoi l'amplitude, la grandeur d'un nombre que tu vois devant toi, puis comment est-ce que tu l'identifies avec quelque chose que tu vois dans ton environnement. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment la définition de base, je trouve. Ouais.
Mm-hmm.
OK, continuons.
On est à l'acte 2. OK, on est toujours à l'acte 2. Et puis là, on est en résolution de problème, mais là, les élèves doivent demander quelles données sont nécessaires pour résoudre le problème. C'est ce que j'aime. On ne leur donne pas tout là, sur le plateau d'argent. Ils doivent décider, est-ce qu'il faut une longueur, un volume, n'importe quoi. Là, ils doivent vraiment demander les données.
Et là, pour revenir à qu'est-ce que tu avais fait tantôt, la mise en situation, c'est le fait que, je remarque que c'est le printemps.
Mm-hmm.
Tu sais, peut-être que le printemps, ça a eu l'effet avec ça.
Oui,
alors, peut-être la température, ça a eu un effet. Peut-être que la vitesse du vent, ça a eu un effet. Mm-hmm. Alors là, là, quand c'est là que tu dis que n'importe quoi qui a été mentionné à l'acte 1,
ouais,
ça revient mettre, se mettre en jeu.
Oui, exactement. Okay, donc là, on demande des données, puis en même temps, on est en train de penser à comment on va résoudre le problème, en pensant aux données manquantes. Et puis là, c'est le fun, on donne les données qui ont été demandées par les élèves. Donc voici la hauteur que tu voulais, voici la largeur, voilà, voilà. Et puis là, les élèves vont en résolution le problème, d'habitude en équipe, en petite équipe, et puis ils se mettent à essayer de résoudre le problème. Puis on encourage d'utiliser la méthode de résolution de problème qu'ils veulent.
OK. Puis c'est un petit peu le cas à l'élémentaire aussi. Comme là, on les encourage à vraiment utiliser leur algorithme personnel, de vraiment trouver une façon qui leur sont appropriées, qu'eux autres, ils comprennent comment essayer de résoudre le problème.
C'est ça, parce que, bien, on va en parler un peu plus tard, parce qu'on parlait de ça avant de commencer à s'enregistrer, mais que parfois, c'est une initiation, c'est une exposition à un nouveau concept.
Ouais.
Alors, peut-être qu'ils n'ont pas encore l'algorithme le plus efficace, mais ils ont leur propre façon de résoudre leurs problèmes, puis on va les amener plus loin.
Là, ils vont être intéressés à trouver cet algorithme, parce que là, il y a un problème qui les intéresse, ils veulent le résoudre, mais ils n'ont pas les outils, puis là, ils peuvent s'intéresser à apprendre et obtenir cet outil.
En effet, ouais.
OK, et ensuite?
Acte 3. Donc là, l'acte 3, ça peut être le lendemain aussi ou ça peut être à la fin du cours, ça dépend du problème.
J'aime ça, oui.
Ça dépend. Acte 3, on consolide, donc on partage les solutions des élèves et puis on consolide et puis on vient régler les problèmes s'il y a des méprises. C'est vraiment l'enseignant qui consolide à l'aide de ce que les élèves vont contribuer comme résolution de problèmes.
Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un petit exemple, s'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, de cette étape-là? Quelle stratégie les élèves auraient utilisé, puis comment est-ce qu'on peut montrer à toute la classe comment est-ce qu'on choisit les stratégies utilisées par les élèves qu'on veut discuter avec la classe?
Faut vraiment choisir. Donc, il faut choisir quelles équipes vont partager leur résolution de problème. Ou comme je disais, on utilise souvent des plateformes vidéo comme Flipgrid où les élèves vont aller expliquer leur raisonnement, leur résolution de problème par vidéo. Donc là, l'enseignant peut regarder les vidéos et choisir des tactiques différentes. Varier vraiment ce que les élèves ont fait. Puis après, c'est aux élèves à se demander, puis on pose la question, est-ce qu'il y avait une technique qui était plus efficace qu'une autre? Est-ce qu'il y en a une que tu as mieux comprise qu'une autre? Et puis, on peut, comme je parlais de méprise, on peut aussi définitivement montrer des vidéos ou montrer des résolutions de problèmes où il y a des méprises, il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises, puis on les regarde ensemble, on apprend de ces erreurs-là.
Oui.
Parce que moi, je le vois un peu, et peut-être que je me trompe, un peu comme un étayage. Alors, j'avais fait un problème ouvert il y a des années où l'idée, c'était de les amener à la multiplication. Mais il y avait des élèves qui avaient choisi de compter par bon de 2, de compter par bon de 5. Il y en avait qui avaient fait des regroupements pour que ce soit plus facile à compter. Puis, il y en avait qui avaient fait une multiplication. Alors, si on prend le groupe qui a compté par bon de 2, puis on les initie au regroupement, c'est un peu plus efficace. Puis on prend ce groupe-là, puis on leur montre le groupe. Bien, on montre à tout le monde. Alors, c'est un peu de voir ta prochaine étape. Est-ce que tu le vois comme ça?
Ça peut être comme ça aussi, surtout si le maths en trois temps a été placé avant un apprentissage.
OK.
Oui, absolument. Parce qu'on peut faire des maths en trois temps à différents endroits dans notre pédagogie, dans notre parcours d'apprentissage. Ça peut être avant un apprentissage. Puis là, il va falloir cet apprentissage-là pour que les élèves résolvent le problème de façon efficace. Mm-hmm. Ça peut être pendant qu'on apprend des choses et ça peut être donc une mise en application de ce qu'on est en train de voir en ce moment. Ou ça pourrait être à la fin d'un module, ça pourrait être une consolidation, révision, ou ça pourrait être, moi j'aime ça, après. Donc, plus loin, 2 mois plus tard, tu fais un maths en trois temps qui est relié à un apprentissage qu'on a fait il y a 2 mois. Donc, c'est une spiralée en même temps. On ramène des apprentissages qui ont été importants, on rappelle au cerveau, ces apprentissages-là.
Oui. Parce que dans la vraie vie, on n'est jamais présenté avec un problème, avec des données qui sont sur une feuille, puis on dit « Ah ouais, résous ça. » Non, c'est vraiment, t'es confronté par une situation de vraie vie.
Ouais.
Et après ça, c'est à toi d'aller chercher les données qui sont nécessaires, les données qui sont pertinentes pour pouvoir essayer de résoudre le problème que tu as.
Et dans la vraie vie, on n'est pas en train de faire de la multiplication en ce moment. On est dans l'unité de multiplication.
Ouais.
Alors, tout ce que la vie nous amène, ça va être une question de multiplication.
Ouais.
Alors, je pense qu'on avait, comme tout, que tu avais touché à ça un petit peu, si tu avais mentionné qu'à la fin, à l'acte 3, une fois que les élèves ont fini, ben ils ont résolu le problème, ils ont partagé leurs algorithmes, leur résolution de problème par Flipgrid. Est-ce que ça rentre un petit peu dans une composante d'évaluation dans ce tâche pour nous autres, pour les enseignants qui aimeraient ça évaluer? Qui aimerait ça évaluer, parce qu'on a besoin de savoir où est-ce que les élèves se situent. Alors, en fait, les maths en trois temps, est-ce que ça va être la seule façon de les évaluer? Est-ce qu'il y aurait d'autres façons de les évaluer aussi?
OK, alors les maths en trois temps, ça sert souvent d'évaluation en tant qu'apprentissage, au service de l'apprentissage. On l'utilise beaucoup de façon formative, c'est vraiment de la pratique, de la résolution de problèmes. Mais dans un cas, on l'a déjà utilisé comme examen de mathématiques 9e année. On l'a utilisé, ça faisait partie de l'examen. On a lancé une résolution de problème de maths en trois temps, puis on l'évaluait à l'examen.
Oui.
Donc, on peut aussi l'utiliser comme évaluation de l'apprentissage. Mais surtout, c'est formatif, c'est vraiment au service d'apprentissage.
Oui, oui. Puis c'est intéressant aussi parce qu'à ce moment-là, les critères, ce n'est pas juste est-ce que tu peux me donner la bonne réponse. Les critères, ce sera plutôt quelque chose comme est-ce que tu as utilisé toutes tes stratégies qui sont disponibles à toi? Est-ce que tu as identifié les données qui sont pertinentes?
As-tu communiqué?
As-tu bien communiqué? Fait qu'on travaille tout en mathématiques sauf de juste me donner la bonne réponse.
Oui. Une des choses que j'avais lues dans un livre de Joe Bowler il y a quelques années, c'est que l'acte le plus mathématique au monde, c'est de parler des mathématiques, de discuter des mathématiques. Mm-hmm. Alors, si tu ne peux pas expliquer comment tu l'as fait, pourquoi tu l'as fait d'une telle manière, tu n'es pas vraiment en train de faire des mathématiques. Et ça, c'est une autre chose que dans la classe traditionnelle, on néglige très souvent.
Absolument.
Les maths en trois temps aussi, j'ai un exemple d'un prof en 10e année qui a fait un projet de maths en trois temps. Donc, après en avoir vécu plusieurs dans la classe, les élèves devaient créer leur propre maths en trois temps. Donc, ils devaient créer leur propre acte 1, leur acte 2 et l'acte 3. C'était un projet qui démontrait leur apprentissage en créant le maths en trois temps eux-mêmes. On l'a évalué comme ça aussi.
Ça, c'est intéressant.
J'aime.
Ça va de l'autre côté. C'est vraiment, c'est vraiment dans les deux sens. Mm-hmm. On peut aller d'un sens, puis de revenir de leur demander à créer.
Et on dit que les élèves devraient toujours être en train de travailler plus fort que nous. Et là, c'est le cas. J'ai une autre question. Tu avais déjà parlé un peu de la différence entre une résolution de problème classique et une résolution en trois temps. Puis tu avais dit que souvent dans la résolution classique, c'est, tu sais, on reçoit notre photocopie, puis on se met à la tâche, et souvent c'est individuel. Est-ce que les maths en trois temps, souvent c'est en diade ou...
Oh oui, on encourage beaucoup d'être en petite équipe, d'habitude, diade, 2, 3, même 4 élèves, parce qu'on veut cet échange-là, on veut que les élèves se parlent, se comparent de la résolution de problèmes. On le fait en équipe, d'habitude. Il y a l'exemple où on l'a utilisé comme examen, là, c'était individuel.
Ah oui, ouais, en effet. Ouais.
Et est-ce qu'il y a d'autres différences, ou est-ce que tu as déjà touché à tout ce qui était différent? Tu avais dit que c'est plus engageant.
Je vais vous dire, la magie est dans l'acte 1. C'est l'acte 1. C'est, les élèves arrivent, ils viennent du dîner, ils viennent d'avoir eu des conversations, d'avoir joué au gym, tout ça. Ils arrivent, sont très distraits. Puis là, on lance un match de basketball au tableau, là, en classe de maths. Donc, on vient accrocher les élèves. C'est notre amorce. On vient prendre leur attention. Et puis là, on est en maths, tout le monde. Puis tout le monde regarde le tableau, puis tout le monde est intéressé. C'est l'acte 1 qui fait la différence. Je peux parler d'un exemple où on a utilisé un problème classique, comme on disait. 3 pages de texte. C'est une histoire de traiteur, restaurant, il y a une fête. Bon, beaucoup de richesses mathématiques dans le problème, mais il était sur 3 pages avec plein de tableaux, de données, et les élèves l'ont pas aimé le problème. C'est pas surprenant, là, mais...
Jen!
Yeah! Ils n'ont pas embarqué. Ils ont vraiment, c'est en 8e année, cet exemple-là, puis les élèves n'ont pas embarqué. Bon, c'est pas surprenant. Alors là, moi, je suis chanceuse d'être accompagnatrice. J'ai pris ce problème-là qu'on avait essayé à une école, je l'ai amené à une autre école, et puis on l'a transformé en maths en 3 temps. Alors, un problème qui est, tu sais, plate, là, puis qui fonctionne pas, mais qui a de la richesse mathématique, juste le transformer maths en 3 temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est que les élèves devaient raconter l'histoire avec des images. Donc, on a juste mis des images, puis les élèves devaient deviner c'était quoi la situation. Donc, ah oui, ben il y a une fête. Ah, puis il y aura des repas. Alors, ah oui, il y a des traiteurs qui vont... Ah, il y a l'épicerie, il va falloir qu'ils aient acheté des aliments. Donc là, c'était eux qui racontaient l'histoire. C'est pas eux qui lisaient la page de texte. Puis après, quand on a demandé qu'est-ce qu'on pourrait se poser de questions mathématiques, c'est eux qui ont posé la question. Combien de profit va se faire cette compagnie traiteur? Donc, c'est eux qui ont posé la question. Puis après, quand on demandait quelles données voulez-vous pour résoudre le problème, ben ils ont carrément demandé les tableaux qui étaient sur les feuilles de papier de données. Il y avait besoin de ça pour répondre. Et puis tout au long, on avait aussi des chapeaux de fête. On a porté des chapeaux de fête pour rendre ça un peu plus original puis le fun. Et puis là, les élèves étaient engagés. C'est le même problème. Mm-hmm. En fait, on a passé les mêmes feuilles aux élèves dans l'acte 2, oui. Les mêmes feuilles. C'est juste que l'acte 1 l'a encadré de façon à ce que les élèves avaient embarqué, ils étaient investis déjà puis intéressés.
C'est comme lire un livre, puis après ça, regarder le film. C'est là, c'est comme... T'avais le texte, mais là, dans ce cas-là, c'est qu'on a vu le film en premier, mais après ça, on a lu le livre après. Mm. Mais alors, oui. Là, tu sais, ça... Je sais pas, comme si ça me faisait avoir une image mentale aussi,
je trouve. Ça me fait penser quand j'enseignais en 4e et 5e, quand c'était l'anniversaire de mes enfants. Puis mes élèves connaissaient mes enfants parce qu'ils étaient dans la même école, mais mes enfants étaient tout petits. Et j'apportais les sacs à surprise, puis tous les cadeaux que j'allais mettre là-dedans, puis je leur disais combien d'élèves que j'allais inviter, puis ça, c'était la mise en situation. Ouais. Puis ils devraient faire une modification pour savoir combien de chaque jouet ou de chaque bonbon qu'il fallait que j'achète pour les sacs à surprise. Alors, c'est à peu près la même chose, mais j'aurais pu le mettre sous forme écrite, mm-hmm.
Ça aurait été plate.
Mais lorsque tu as, tu sais, des accessoires, des objets... Et une situation authentique.
Vraiment authentique. Oui. Tu t'intéresses à ça, là, ouais.
Oui. En parlant de matériel, en parlant de choses que tu peux utiliser, alors là, c'est un bon lien que je peux établir entre ce que tu viens de dire avec la prochaine question, mm-hmm. ce qui est, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire les maths en trois temps?
Mm-hmm. Ça dépend du problème que tu vas poser aux élèves. Ben, dans la mesure du possible, j'essaie d'amener du matériel, quelque chose à manipuler qui va avec le problème. Comme l'autre jour, on a lancé le maths en trois temps, où est-ce qu'on demandait combien de verres peuvent être remplis avec une bouteille de 2 litres de soda. Donc, j'ai amené des verres, tout le monde manipule les verres, t'amènes tes règles. Ça dépend du problème.
Mm-hmm. Puis, vas-y.
Oh, j'allais juste ajouter, on parlait d'une résolution de problème que j'avais fait dans une classe de première année il y a quelques semaines où c'était à propos du chocolat chaud, puis ça venait du site de Making Math Moments Matter. Les élèves devaient voir combien de cuillerées de poudre à chocolat chaud est-ce qu'il fallait pour préparer 3 tasses de chocolat chaud. Et on leur avait donné du matériel et du papier grand format. Mais c'était drôle de voir qu'ils avaient vraiment besoin de répliquer, de faire semblant de faire du chocolat chaud.
Mm-hmm.
Alors, à la fin, j'ai filmé 2 petites filles qui faisaient la résolution ensemble. Puis, l'enseignante, finalement, avait sorti des verres en plastique. Puis, elles avaient pris une cuillère. Puis, on leur avait donné des cubes pour commencer. Mais elles étaient tellement encore dans le concret qu'elles ont dû prendre une cuillère puis prendre un cube avec la cuillère et le mettre, tu sais, 3 fois, un cube 3 fois ouais. dans chaque une des tasses pour finalement avoir, tu sais, pour trouver la réponse.
Ouais.
Alors, tu sais, on avait pensé qu'avec du semi-concret, avec des dessins ou avec des cubes, que la classe aurait pu faire les calculs, mais vraiment, il fallait prendre un petit pas de recul parce que l'enseignement n'avait pas encore été fait de
oui.
comment passer du concret à du semi-concret.
Oui.
Et c'était adorable.
Oui, c'était wow. oui, de les voir, de faire
remuer avec leur petite pierre.
J'ai d'autres exemples. Je me fais penser à un maths entre-temps. L'acte 1, c'était une vidéo. Là, il y a quelqu'un qui descend les escaliers pour arriver au premier étage versus quelqu'un qui prend l'ascenseur pour descendre. Puis la question était... lequel est plus rapide, prendre les marches d'escalier ou l'ascenseur. Donc là, dans la classe, en fait, ils étaient intéressés à savoir, dans l'école, qu'est-ce qui est plus rapide, dans notre école.
Oui.
Nos élèves demandaient de sortir mm-hmm. de la classe, puis on le fait en petit groupe, puis ils allaient comparer avec des chronomètres l'ascenseur de l'école versus descendre les marches d'escalier. Ils essayaient de reproduire la vitesse qui était dans la vidéo pour descendre les escaliers. Donc, on est sortis comme sur le terrain, vraiment, essayer de répondre Exactement. À la question. Mm-hmm. On a défait des tuiles de plafond parce qu'il fallait savoir environ... Un étage dans une école, c'est combien de mètres? Donc, on a enlevé la tuile, on a regardé avec nos mains.
Est-ce qu'on peut dire ça? Il ne faut pas le dire.
On a replacé la tuile après. Mais c'est juste pour dire combien ils embarquent mm-hmm. dans le problème.
Absolument. Ouais. Puis, il faut se mettre dans leur peau aussi. Parce que souvent, je me souviens l'autre jour, lorsqu'on parlait des problèmes en trois temps, j'étais comme, oh, j'ai un très bon exemple parce que chez nous, il faut qu'on... Je ne me rappelle plus c'était quoi. C'était une rénovation ou quelque chose du genre. Puis, pour moi... Ça, c'est vraiment intéressant. Mais pour un élève, c'est pas son vécu, une rénovation. Alors, si on pense, tu sais, à plus, s'ils peuvent amener cette idée de l'ascenseur et les escaliers jusque dans leur école, c'est tellement plus puissant que si on essaie de les intéresser à quelque chose qui est vrai pour nous, mais pas vraiment authentique pour eux.
C'est comme une résolution expérimentale. Ils sont debout, ils sont en train de faire des choses, ils sont pas juste assis à écrire. Mm. C'est vraiment le fun quand on peut faire ça.
Que c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans la vraie vie aussi. Puis je me souviens, parce que nous autres, on avait vécu la bouteille de l'eau puis les verres.
Ouais.
Puis je me souviens que quand nous autres, on avait fait comme adultes, t'sais, on se posait beaucoup de questions. Combien ça, parce que la question qu'on s'est arrivée, c'est que combien de verres est-ce qu'on peut remplir avec ce qu'il y avait dans cette bouteille-là?
Mm-hmm.
Fait que nous autres, comme adultes, alors qu'est-ce qu'on avait fait? C'est qu'on a vérifié, on a tout vérifié.
Oui.
On a vérifié la capacité de la bouteille. On a vérifié la capacité de chaque verre.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, c'est des questions qu'on se pose. C'est là qu'on est allé chercher les données qui sont importantes pour dire, ah, oh, ça va être utile, ça va pas être utile. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là?
Puis après, si tu fais une fête chez toi puis tu veux avoir des invités, savoir combien de bouteilles de breuvage tu dois acheter, ben ça, c'est même utile de le savoir déjà.
Alors bref, ça, c'est vraiment comme, tu sais, lorsqu'on parle des situations authentiques, là, ça, c'est situation authentique exponentielle.
Mmh,
c'est vraiment, là, c'est vraiment, tu peux pas être plus authentique
c'est que ça. C'est ça, c'est la vraie vie, là.
Ouais. Prochaine question. Alors, tu sais, on a passé un petit peu à travers, on sait ce dont on a besoin pour faire les en trois temps. Là, on va parler un petit peu peut-être des difficultés qu'on peut rencontrer. Comme, alors, si on voit qu'il y a un élève, parce que pour une raison ou une autre, bloque, qui sont juste pas capables, ils voient l'acte 1, il ou elle, parce que ça peut être n'importe qui. Alors, si l'élève voit l'acte 1,
oui.
Puis qui dit, OK, qui accroche,
qui
embarque, qui peut poser des questions, mais lorsqu'on est arrivé à l'acte 2, là, il bloque. Il sait plus où aller chercher ses données, il comprend plus vraiment la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces élèves-là?
Oui, excellente question. Il faut se préparer d'avance parce que ça va arriver.
Ah.
Hein? Les élèves sont à différents niveaux, il faut être prêt à différencier. Puis on va aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui vont plus vite que les autres? Résoudre le problème plus vite. Alors, des idées pour quand les élèves bloquent, moi, je pense à deux options d'habitude. Donc, je suis toujours prête à donner des indices aux élèves. Un peu comme dans le style des jeux d'évasion. Vous savez, quand on est bloqué dans un jeu d'évasion,
oui,
puis on sonne la petite sonnerie puis on dit « je vous donne un indice ». Même chose. Donc, des fois, je les prépare. On les prépare explicitement. Donc, s'ils bloquent, selon où ils bloquent, je vais donner un indice. Ça peut être un mot. Ça peut juste poser une question. « As-tu pensé à une table de valeur? » Ça peut être juste pour les envoyer dans une piste. Donc, un petit déblocage, un indice. Et j'ai déjà même utilisé comme indice la réponse. La réponse au maths en trois temps. Donc,
alors, tu as incorporé la réponse dans ce que tu lui as dit.
C'était l'indice. J'ai dit, vous êtes un petit groupe qui était très, très bloqué. Puis j'ai fait, la réponse, ce bouquet de fleurs-là, il coûte 21 $. Parce que c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas la réponse, c'est leur parcours de résolution de problème. Et je le dis même au début, avant de faire les maths en 30 ans pour la première fois, je fais l'analogie de, on est à Toronto, on veut aller à Montréal, comment est-ce qu'on peut s'y rendre? Là, les élèves donnent plein de réponses, hélicoptère, en nageant, en prenant la voiture, le train. Donc, je mets l'emphase sur le fait que c'est pas notre destination qui est très importante. En ce moment, on est en apprentissage. Moi, je veux voir comment vous allez résoudre le problème. Alors, donner la réponse, des fois, ça débloque, ça enlève l'anxiété. Les élèves font « OK, j'ai la réponse, mais non, je vais juste voir comment m'y rendre à cette réponse-là.
Ouais, »
Donc, ça peut être un indice qui fonctionne très bien. D'autres choses qu'on fait, c'est des problèmes en parallèle. Donc, un problème parallèle qui serait moins complexe, mais qui toucherait les mêmes résultats d'apprentissage. On fait ça aussi comme stratégie pour les élèves qui bloquent.
C'est juste d'avoir une idée de comment est-ce que ça va se dérouler.
Ouais.
Que d'ailleurs, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on planifie une leçon aussi. On va penser aux éventualités. On va dire, qu'est-ce que je pourrais faire si X va arriver? Qu'est-ce que je pourrais faire si Y va arriver? Puis dans l'indice, moi, j'aime beaucoup ça parce que tu peux être aussi vague.
Oui.
Comme tu as dit tantôt, utiliser la table de valeur.
Mm-hmm.
Ou ça peut être aussi précis que, non, je te donne la réponse.
Ça dépend d'où ils sont bloqués, comment ils sont bloqués.
C'est exactement.
Donc, tu prépares des indices, puis ils le savent aussi. OK, il y a des indices si je bloque, donc ils embarquent dans la résolution de problème. Et puis, pour les élèves qui terminent très rapidement, parce que ça arrive absolument à chaque fois aussi, alors ça, ce qu'il faut, c'est des extensions qui sont prêtes. Okay? Donc, des extensions d'autres questions qui vont plus loin, qui sont plus complexes ou qui touchent à d'autres domaines, si tu
veux. Avec les mêmes données.
Avec la même situation. Mais juste d'autres questions, d'autres domaines. En fait, des fois, on peut se préparer des mises en situation légèrement différentes aussi. J'ai déjà fait ça dans un cas parce qu'il y a des banques en ligne là aussi déjà préparées. Donc, des fois, tu as une autre mise en situation. C'est juste, par exemple, un lancer de basket, mais il est juste un peu différent. Et celui-là, analyse-le versus celui qu'on vient de faire. Donc, des extensions.
C'est ça que j'ai beaucoup aimé avec le problème que j'ai utilisé en première année. Dans les commentaires par la suite, il y avait beaucoup d'enseignants qui avaient fait des commentaires pour dire, moi, je l'ai utilisé dans ma classe de troisième, puis voici l'autre question que j'ai posée. Puis jusqu'à la huitième année.
Oui.
Alors, on a fait ça, puis ensuite, je leur ai demandé, voici la canette de poudre à chocolat chaud, voici le volume. Si ça prend 3 cuillères à thé pour faire une tasse, combien de tasses est-ce que je peux faire avec la boîte, tu sais, au complet?
Au complet, oui.
Alors, on peut le prolonger.
Ça peut être des questions ouvertes dans tes extensions aussi. Donc, maintenant, fais le design d'une piscine qui pourrait être remplie avec 1 million de bouteilles de Coca-Cola. Puis là, c'est ouvert.
Oui. J'ai déjà demandé aux élèves aussi dans une autre situation, mais créer un autre problème. Créer un problème qui est trop difficile pour toi. Mm-hmm. Créer un problème que toi, tu pourrais pas résoudre.
Excellent.
C'est vraiment, puis ça peut être juste comme je me demande. C'est d'autres questions que tu te poses, mais que probablement que toi, tu n'as pas les capacités de le résoudre encore. Puis ces extensions-là, les extensions qu'on parle, ça me fait beaucoup penser à la ressource des maths par image, comme où est-ce que par Marion Small, c'est comment qu'on a toujours une mise en situation sous forme d'une image, mais après ça, il y a toujours des questions d'enrichissement. On appelle ça enrichissement ou ça peut être extension, comme vous l'appelez, puis ça permet justement aux élèves qui sont un peu plus avancés, qui finissent vite, en guillemets, de pouvoir aller chercher d'autres informations, de pouvoir aller chercher d'autres connaissances aussi.
Sans que ce soit un genre de punition.
Non, parce que
exactement.
C'est vrai.
Parce que je me rappelle, il y a des années, l'idée de l'enrichissement, souvent, les gens avaient des pochettes ou des enveloppes d'autres travaux que les élèves pourraient faire. Mais pourquoi est-ce que je voudrais terminer mon travail si après ça, je devais juste aller chercher d'autres photocopies puis répondre à des questions plates?
Les extensions peuvent même être interdisciplinaires, si on veut. Dans le cas là, du problème plate qu'on avait transformé en problème amusant avec le traiteur et les profits, quand ils ont figuré le profit, donc la compagnie a fait 20 % de profit, on avait demandé... Et ça, en affaires, est-ce que c'est un bon chiffre? C'est un bon nombre, 20 %? Oui. Donc là, il faut aller faire des recherches en affaires. Est-ce que c'est un bon profit, 20 %? Ce qu'on recherche d'habitude, je ne sais pas. Donc, on a envoyé des questions d'extension comme ça.
J'aime beaucoup ça.
Alors, on avait parlé du fait que la question ou la mise en situation doit être quelque chose qui va vraiment susciter de l'intérêt puis de la motivation. Est-ce que tu aurais un petit exemple qu'on pourrait peut-être vivre?
Oh oui, j'en ai un qui est... auditif, justement. OK, donc on va faire
ensemble à travers le podcast.
Exactement. Je l'ai fait en mathématiques 9e année. Puis on était dans la salle d'informatique et puis nos élèves de maths étaient là. Puis il y avait d'autres élèves qui prenaient des cours en ligne et tout le monde regardait le problème. OK, donc on l'a déjà testé sur le terrain. Vous êtes prêts? Je vais faire jouer l'acte 1. Et puis la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous remarquez? Puis qu'est-ce que vous vous posez comme question?
Remarque qu'on a commencé à danser un petit peu.
Oui. Ah, là, je remarque que c'est une autre chanson.
Le rythme est différent.
Ah.
Il n'y a pas de parole. C'est un peu moins.
Troisième chanson. Ce sont toutes des chansons hip-hop que je connais très peu, mais bon. Une quatrième. Oui. OK. Alors, voici tout ce qu'on rend. Oh, il y en a une cinquième chanson.
Et voilà, c'est l'acte 1.
Wow!
On est juste là, puis on se pose des questions qui n'ont probablement absolument rien à voir ou tout à voir avec la résolution de problème.
C'est pas des maths comme évidence encore. C'est du fun, c'est du hip-hop. Là,
on a remarqué qu'il y avait 5 chansons différentes, que c'était des chansons hip-hop, qu'on aime ça danser dans un environnement contrôlé, peut-être. que quoi d'autre? Il y avait des rythmes différents.
Oui. Et c'est ça, c'est en lien avec la danse aussi, comme sur laquelle est-ce qu'on préférerait danser.
Ah, il y a ça aussi, oui, en effet.
Puis qu'est-ce que vous vous posez comme autre question, là?
Qu'est-ce qu'on se pose comme question? Mais dans quelle façon est-ce que ces chansons sont différentes?
OK.
C'est ça que je me poserais comme question.
Comparaison,
On les compare, mais de quelle façon? Comme de quels sont les critères, disons? Mm-hmm. Quels sont les critères? Qu'est-ce qu'on aimerait les comparer?
Puis si on veut commencer à poser des questions mathématiques, je me demanderais peut-être combien de, je ne connais même pas la bonne terminologie, mais combien de battements par minute.
Par minute, ou... BPM, très bien.
OK.
Ouais, ça c'est...
OK,
c'est,
ou peut-être...
Existe, BPM.
Et peut-être la
cadence, la...
Le range okay. entre les notes.
D'accord. Comme... Oui.
C'est quoi le mot pour l'écart entre les notes les plus basses et les notes les plus
élevées. L'écart, très bien.
Mais je me demande
c'est quoi. C'est de la musique, puis c'est des maths, là. Les questions que vous posez, ça, en lien avec les deux.
Puis c'est clair, là, comme on voit ici, que même si on n'a pas le vocabulaire nécessaire qui est relié en musique, mm-hmm. c'est pas grave.
Oui.
On se pose des questions. Parce qu'on a réussi à décrire les termes qui peuvent être un peu techniques, mais avec nos propres mots. Puis juste vraiment une parenthèse de côté, là, tu sais, oui, évidemment que beaucoup d'exemples que tu avais donnés, c'était au secondaire, mais Jen, toi aussi, tu avais donné beaucoup d'exemples qui sont à l'élémentaire. Puis c'est clair, c'est comme si des fois, souvent, on dit que les élèves n'ont pas le vocabulaire requis. Comme on voit ici, mm-hmm. on n'a peut-être pas le vocabulaire requis, mais pourtant, on sait poser des questions qui est en lien avec la résolution mathématique aussi.
On va apprendre le vocabulaire en faisant la résolution du problème. Mm-hmm. C'est ça l'idée.
Et je me demande aussi de quelle façon est-ce qu'on pourrait comparer les battements par minute. Comme, est-ce que ça pourrait être un pourcentage? Est-ce que cette chanson est 20% plus rapide que l'autre?
Oui, les battements étaient irréguliers. C'est ça, le hip-hop. C'est pas un rythme qui continue. C'était très irrégulier.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'on compte? Parce que j'entendais aussi comme des snare drums,
mm-hmm.
où ça va beaucoup plus vite que le battement.
Que l'instrument qui est plus régulier.
Exactement.
Mm-hmm. Et sur quel temps? Parce que si j'ai une minute de musique, si je compte 10 secondes, si je compte les battements pendant 10 secondes, là, je peux... extrapoler.
Mm-hmm.
Oui!
Ouhou, bravo!
Faire un graphique. Mais c'est ça, en fait. Notre question avec cette mise en situation-là, c'est quelle chanson a le rythme le plus rapide?
Alors là, on est rendu à l'acte 2.
Oui.
Oui, parce que là, on s'est beaucoup posé beaucoup de questions.
Oui.
Puis là, la question, c'est...
Quelle chanson a le rythme le plus rapide et aussi lequel a le rythme le plus lent?
Donc, OK.
Faut les comparer, oui.
Puis là, quel genre? Puis là, à ce moment-là, est-ce que les élèves sont appelés à juste aller chercher les données eux-mêmes ou est-ce qu'on peut leur fournir quelque chose?
Oui, on leur demande en premier d'estimer aussi. On leur demande juste d'estimer quelle chanson, selon toi. Donc, on les rejoue. Hein? On a rejoué cette vidéo 2-3 fois. Puis là, ils estiment juste comme ça, avec leur intuition, quelle chanson a le rythme le plus rapide, le rythme le plus lent. Puis après, on leur demande, t'as besoin de quoi là pour résoudre? Quelles sont les données manquantes? Puis là, ils doivent penser, qu'est-ce que je veux? Des battements par minute, de quel instrument, par exemple? Oui, donc ils demandent des données, puis nous, on est prêt avec une table de données, et c'est les sons de basse par seconde qu'on leur donne dans ce problème-là.
Les sons de basse par seconde, OK, je comprends.
Okay. Et puis, il y a des chansons où on va donner jusqu'à 11 secondes, il y en a que c'est 10 secondes, donc 9 secondes, donc c'est pas comparé ça, par le même nombre de secondes aussi.
Et quel est le concept que vous voulez... faire ressortir.
Donc, les élèves vont travailler avec ces données-là et ils vont voir qu'ils vont créer des nuages de points par graphique. Ça, c'est une des techniques qu'ils vont probablement utiliser. Et puis, il faut trouver la droite qui représente le mieux ce nuage de points-là, qui est un résultat d'apprentissage en mathématiques 9e année.
Intéressant.
Très bien.
J'allais dire une relation linéaire ou non? Non, c'est pas important.
C'est ça. Il faut la transformer en fonction linéaire. En ce moment, c'est juste un nuage de points parce que les beats sont irréguliers dans le hip-hop.
OK.
Donc, en fait, on a enseigné la leçon comme ça. Cette activité.
En fait, ça c'était l'exploration, exploration.
Oui.
OK. Exactement. Puis c'est avec ça qui leur a mis en contexte de qu'est-ce qu'on devrait faire lorsqu'on a un nuage de points, puis comment est-ce qu'on peut l'extrapoler ou comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y a une fonction linéaire qui va avec
tracer
ça.
Tracer la meilleure droite, la plus appropriée. On le fait à travers l'acte 3, on consolide, puis c'est ça notre leçon.
Alors, tu avais mentionné qu'il y a plusieurs sites qui sont disponibles où il y a des problèmes qui sont déjà créés, où il y a des images, des photos. Alors, ça, on va le mettre dans la description.
On est chanceux. En maths, il y a énormément de sites web pour toutes les années.
Très contente qu'on avait demandé un exemple parce que c'était très intéressant.
Oui.
Absolument, absolument. Puis, n'oublie pas, encore une autre fois, comme Nicole a dit tantôt, ça, oui, c'est vrai que l'exemple qu'on vient de donner, c'était un exemple pour la 9e année, mais ça se fait à n'importe quel niveau. Ça vient rejoindre vraiment la pensée critique, la résolution de problèmes chez chaque élève, que ce soit leur niveau, que ce soit où ce qu'ils sont rendus. Alors, c'est vraiment une belle approche. Puis, comme on avait dit au début de l'épisode, c'est vraiment une belle façon de structurer ton bloc aussi. Alors, sur ce, On te remercie énormément d'avoir participé à notre balado. Et on dit comme toujours, à la prochaine!
Ça me fait grand plaisir! Merci beaucoup! À la prochaine!
Merci, Nicole!
Merci d'avoir écouté l'épisode. Vos animatrices sont Jennifer Davies, Mylène Brassard et Vicky Fauteux. Un remerciement particulier à nos directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamonde. Le montage est fait par Vicky Fauteux. La musique est créée par Ralph Grant et enregistrée par les Productions Guérin. Les dessins du logo sont créés par Francis Fauteux et notre logo est créé par Mylène Brassard. À la prochaine!